Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les crises, crise environnementale, crise économique, crise sanitaire, il y a des moments où l'on sature de toutes ces crises et on finit par se demander si leur omniprésence n'est pas aussi le fruit du légendaire pessimisme français. Et pourtant, les crises ne sont-elles pas la part d'ombre de toute vie et donc de toute réalité sociale? Les crises ne sont-elles pas, même au risque de provoquer, le meilleur moyen de sortir grandi, de trouver un peu d'air pur et au final d'être plus heureux? C'est en tout cas la conviction de mon invité de ce matin à propos du couple et de la famille. Quelle famille et quel couple n'a jamais traversé de moments difficiles? Et bien ce matin, petit guide de sortie de crise. Vite couple, vite famille, avec comme sous-titre donc de cette émission régulière, la crise dans la famille, avec vous, Marie-Aude Binet, faut-il vous présenter, conseillère conjugale et familiale sexologue, auteur de multiples ouvrages, celui qu'on citera ce matin à plusieurs reprises, c'est donc Grandir en couple, paru aux éditions des Béatitudes. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et puis votre compère s'est fait porter pâle. Je remarque quand même que dans cette émission, c'est les hommes qui se font porter pâle et c'est vous qui tenez bon. Je sais pas ce que ça dit de notre époque, mais bref, Bernard Coulot, qui est donc psychologue, nous rejoindra pour la prochaine émission. Alors avec vous, on va parler des crises. Allez, on va commencer par se faire plaisir. Hein. On va s'écouter un petit extrait d'un sketch. En l'occurrence, c'est Les Deschiens. Les Deschiens, peut-être que les plus jeunes ne connaissent pas, mais en tout cas, ça a bien fait rire une partie de notre génération. Et ils s'engueulent.
Hein?
Ouais.
Quoi, ouais?
Ouais.
Alors, non, bah dis.
Ouais, d'accord. Ramène pas ta fraise. Hein.
Quoi?
Ramène pas ta fraise.
J'ai bien compris. Non, bah dis donc.
Ah, j'ai bien compris.
Je ramène ma fraise si je veux, dis donc. Alors, ça vaut deux minutes aussi, genre, hein?
J'ai bien compris ton manège.
Ah, mais aussi j'ai compris, hein? Mais j'ai compris que lui, Ayuki, il dit rien, hein? Ah, il dit rien, Ayuki, hein?
Voilà, alors on s'engueule pas tous comme les Deschiens, mais en tout cas, la crise fait partie de la vie. Marie-Aude, les crises, vous saturez pas, vous aussi, par moment, quand vous êtes thérapeute familiale et conjugale? Comment vous faites pour arriver à gérer la saturation de crise? Quand vous venez à la radio, vous avez toujours le sourire, mais je me dis, c'est pas possible, comment elle fait?
Ça fait partie quand même aussi de notre métier, hein, de prendre le recul nécessaire pour mieux accompagner. Donc je dirais que ça demande une bonne hygiène personnelle, une bonne hygiène de vie. Bien sûr qu'il y a des moments où ça peut être un peu lourd. Et le contexte actuel fait qu'en effet, il y a beaucoup de crises, hein, qui surviennent au sein des familles de manière très large, hein, pas que dans le couple. Mais il y a aussi de très beaux accompagnements avec des couples ou des familles qui vivent des belles réconciliations et des beaux chemins de vie. Il n'y a pas que du négatif, bien heureusement.
Mais ça veut dire qu'il faut apprendre à développer des anticorps. Ça, c'est une des grandes clés tout au long de la vie, en fait, pour arriver à gérer ces crises, cette prise de distance quand même, ou cet équilibre auquel vous travaillez à titre personnel. J'imagine que c'est parfois peut-être les premiers conseils que vous donnez à ceux que vous accompagnez.
Mais en fait, c'est déjà d'accepter que nous sommes tous concernés. Enfin, quand on est thérapeute, vous savez, on n'est pas hors du monde, on est dans le monde. Et donc, nous-mêmes, on peut vivre des moments qui peuvent être difficiles. C'est ce qui nous permet aussi de mieux comprendre et mieux accompagner les difficultés des autres. Donc, cette bienveillance et cette simplicité face à la vie, permet ce que disait Carl Rogers, d'être dans une empathie très congruente, c'est-à-dire que nous sommes cohérents dans notre humanité.
Alors les crises, le crise dans la famille, vous vouliez faire un petit détour au début de cette émission, avant qu'on fasse écho à l'engueulade des chiens qu'on a entendu, donc de parler, pour commencer, donc des crises dans la vie de couple. Après on parlera par des relations parents-enfants et des familles recomposées, ça sera un peu les trois points sur lesquels on s'arrêtera. Quel est le détour un peu historique ou sociologique que vous vouliez faire comme préambule?
Alors, juste de dire très rapidement que la famille vit beaucoup de mutations. Enfin, en tout cas, elle en a toujours vécu tout au long de l'histoire. Mais c'est vrai que depuis deux siècles, de manière plutôt importante, puisque autrefois, la famille vivait beaucoup sur l'autorité du père et sur le lien du mariage, qui progressivement, ces deux fondements se sont, je ne vais peut-être pas dire délités, mais en tout cas, ont évolué. Avec aujourd'hui, plutôt, une autorité du père qui est relativement activisée, avec d'abord une autorité maternelle qui est beaucoup plus reconnue depuis les années 1970, c'est en 73 exactement, mais après il y a aussi le fait que les relations parents-enfants sont beaucoup plus égalitaires et on met en valeur beaucoup plus l'individu et son épanouissement au sein de la société et notamment au sein de sa famille. Donc on est dans des problématiques totalement différentes.
Donc c'est pas seulement des représentations de la famille, c'est aussi des modalités de relations.
Exactement, c'est un vécu de la famille qui a changé. On attend de sa famille un endroit où on va pouvoir s'épanouir, on va pouvoir se réaliser, où on va avoir des relations affectives stables, sereines, qui vont donner de la joie, du bonheur et qui vont être facilitatrices pour vivre dans la société. Donc on est beaucoup en attente, voire en exigence par rapport à cette famille. Et c'est pareil au niveau du couple, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup de l'autre puisque le couple aujourd'hui se base sur une relation d'amour, ce qui n'était pas le cas autrefois. Donc c'est vrai que ça va créer des tensions qui n'existaient pas. Ou en tout cas, il y a une psychologisation aussi, et pourtant c'est moi qui suis thérapeute qui le dis, hein, mais de tout ce qui se vit. Donc la moindre erreur, la moindre blessure pourrait presque être dramatisée en disant oh, « attention, qu'est-ce que ça peut produire sur l'enfant ? Qu'est-ce qu'il va en garder pour plus tard ?» Et c'est vrai que du coup, on va être souvent dans une attention quelquefois surdimensionnée à ce que chacun peut vivre avec une culpabilité quelquefois aussi qui va être démesurée.
Donc, la représentation symbolique de la famille a changé, c'est ça qu'il faut entendre derrière, à la fois de la place de l'homme et de la femme à l'intérieur de ça, des relations parents-enfants, et puis de ce que les parents essayent d'apporter aux enfants, de ce que les enfants attendent des parents, c'est
exactement.
Ça
exactement, et du coup, ça fait bouger la famille dans sa place aussi au sein de la société, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le seul groupe fondateur de la société, même si elle en reste naturellement la base. Parce qu'en fait, aujourd'hui, elle va avoir tellement de formes, la famille, on n'est plus que sous la forme de la famille nucléaire avec papa, maman et un ou deux ou trois enfants. On est sur des familles monoparentales, des familles recomposées, des familles avec des parents qui ont le même sexe, des familles dans lesquelles les parents ne sont pas mariés. Donc voilà, il y a plusieurs formes familiales qui font qu'il y a, une réadaptation à vivre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de modèle conjugal, il n'y a plus de modèle familial en tant que tel. Voilà. Et c'est ça aussi qui est très perturbant, parce qu'il n'y a plus de transmission évidente sur « quand je me marie, voilà comment on va fonctionner » ou « quand j'ai des enfants, voilà comment ça va se passer ».
Alors, si on s'arrête sur le couple et sur l'engueulade des chiens, je suis tombé donc sur un article donc de Grazia, un magazine féminin. Et puis, je voulais aussi un peu prendre la température, comme je le fais de temps en temps, de votre cabinet de consultation, sans révéler de secret. Il laissait entendre que la situation sanitaire et les contraintes commençaient à tirer pour les couples. Ce que j'en ai lu ou ce que j'en ai déduit, c'est qu'il y a eu un moment parfois très difficile pour les couples, c'était le premier confinement. Ensuite, ça s'est vécu, on va dire, on s'est adapté et qu'aujourd'hui, ça commencerait à devenir un peu dur. Les quelques lieux de conflit qu'il cite, distanciation sociale, port du masque, parfois on se dispute sur ce sujet, est-ce qu'on n'est pas d'accord ? La proximité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 du couple, le télétravail pour les deux avec les enfants, le manque de soutien, parfois on sature tellement, on ne peut pas forcément se faire aider par les proches. Est-ce que c'est ce que vous retrouvez dans votre cabinet ?
Alors oui, en tout cas je trouve que là les couples fatiguent. Il y a vraiment une lassitude et une grande fatigue qui sont là depuis à peu près la fin d'année 2020 et qui s'amplifient là en début d'année 2021. Moi, je constate quand même plus de désirs de séparation ou de demandes de divorce maintenant que dans l'été 2020, après le premier confinement. Donc, parce que le premier confinement n'a pas été forcément négatif pour tous les couples. Il y en a au contraire qui ont profité de ce confinement pour resserrer les liens conjugaux et familiaux. Donc ça a été assez inégal dans le vécu. Par contre...
Enfin, les stats qu'on lisait, c'est qu'il y avait quand même eu plus de divorces au sortir du premier confinement,
alors,
au printemps
dernier.
En tout
cas... Dans mon cabinet,
dans
mon cabinet, c'est pas du tout ce que j'ai constaté. Moi, c'est plutôt maintenant que je constate plus de demandes de divorce.
Alors, la faute à quoi, entre guillemets ?
Eh bien, un peu ce que vous citez, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une difficulté à trouver des espaces ou des temps de respiration. On a beau s'aimer, on a beau se connaître, être tout le temps ensemble et avoir peu de liens extérieurs, peut finir par fatiguer et puis par créer des tensions parce que on pouvait, auxquelles on pouvait échapper en allant au travail le matin ou en sortant le soir ou en partant un peu le week-end. Et c'est vrai que ces espaces-là extérieurs ont diminué, voire n'existent plus pour certains. D'ailleurs, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, hein, puisque les célibataires en souffrent aussi beaucoup. Donc c'est vrai que c'est compliqué à vivre. Et puis il y a les ressources au sein de la famille élargie qui ne sont plus forcément non plus présentes parce que, comme vous avez dit, les mesures sanitaires ont pu cliver les familles avec des couples qui ne voulaient pas confier leurs enfants à leurs parents ou des parents qui ne voulaient pas recevoir leurs petits-enfants. Donc aussi moins d'espace pour justement avoir une séparation parent-enfant qui permette à chacun aussi de se reposer.
Et puis faire garder ses enfants au-delà de 18 heures, je ne sais pas si c'est une case qu'on peut cocher dans les autorisations de sortie, mais je ne suis pas sûr.
Eh bien non plus. Donc c'est pour ça.
Alors que c'était le cas pendant le confinement.
Exactement. Donc du coup, voilà, certains le font quand même, hein, mais c'est vrai que ça peut être complexe. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a, je vous disais, une lassitude avec une perte de créativité, une perte d'envie qui émerge au sein des couples. Alors quelquefois, c'est les deux. Quelquefois, c'est un principalement. Et c'est vrai qu'il y a, pour certains, de plus en plus un craquage, quoi. Et on parle de phénomène de burn-out. Moi, je parle plutôt d'épuisement, de lassitude par rapport à un contexte global.
Alors, quels sont peut-être les conseils, les grands conseils que vous leur donnez ? Moi, j'en ai glané quelques-uns. On va dire rien de très original. Et en même temps, il est toujours bon de le réentendre. Là, c'est en Magic Maman. 4 conseils pour surmonter une crise de couple. Osez parler de vos sentiments. N'anticipez pas les réactions de l'autre. Voilà, pas de procès d'intention. On écoute sans se dire a priori qu'on a déjà l'idée de la réponse. Prenez du temps pour votre couple et puis soyez spontané.
Alors, prenez du temps pour son couple. Prendre du temps pour son couple, oui. Alors, ça paraît surprenant puisque, a priori, les couples ont tout leur temps depuis plusieurs mois. Et finalement, ils ne le prennent pas tant que ça. Je pose régulièrement la question dans mon cabinet. Bon, ben voilà, vous êtes ensemble depuis 20h ou 18h. Quels sont les temps que vous prenez ensemble ? Et la plupart du temps, la réponse, c'est aucun. Chacun va s'occuper des enfants et puis après, chacun va devant son écran. Donc oui, en effet, quel temps, au moins une fois par semaine, les conjoints vont se donner pour prendre un repas seul, sans les enfants, pour peut-être voir, pour le coup, un écran ensemble, ou peut-être faire un jeu de société. Il y a une recrudescence quand même des achats de jeux de société hein, pendant cette année 2020, et certains couples se sont remis à jouer ensemble, et du coup à rire ensemble autrement, à avoir un moment de détente autre. Et ça peut être assez intéressant. De se redécouvrir aussi à travers ça, de mettre un peu plus de légèreté. En fait, c'est ça que j'invite, c'est les couples, pour que les couples se mettent de la légèreté entre eux. Voilà, de dédramatiser la situation. Il y a un moment de tension, peut-être on peut aller marcher dans le quartier, on peut même aller marcher en forêt, on peut prendre un week-end quand même au bord de la mer. Aujourd'hui, beaucoup de couples ne le savent pas, mais enfin, on peut continuer à louer des B&B, on peut louer des chambres d'hôtes. On peut avoir les moyens d'aller à l'extérieur. Et puis, certains ont quand même pris l'occasion d'aller passer le week-end chez certains amis, de s'autoriser aussi à cette séparation à certains moments, de ne pas être en permanence ensemble pour avoir le plaisir et le désir de se retrouver.
Est-ce que vous pourriez nous donner un petit vademécum de l'engueulade ? Je ne sais pas s'il y a une bonne manière de s'engueuler, pour faire écho aussi à l'extrait sonore que j'ai passé tout à l'heure, parce que par exemple, n'anticipez pas la réaction de l'autre. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est des choses qu'on ne dit pas forcément, s'exprimer, aborder les choses comme si vous n'aviez absolument aucune idée de la façon dont il allait réagir. Et puis j'ai trouvé ces quelques conseils aussi que j'ai trouvé intelligents dans psychologie.com. Temporiser les décisions, faire du temps à un allié, clarifier son intention, sortir du reproche, se méfier de tout dire. Est-ce qu'il y a des clés pour bien s'engueuler, Marie-Aude ?
Et oui, se disputer est un art,
avoir
presque.
Avoir des assiettes en réserve ou...
Alors, en fait, il y a des couples qui savent bien se disputer, entre guillemets, puis il y en a qui ne savent pas du tout, et il y en a qui ne se disputent pas, par peur, justement, du conflit. Donc, c'est vrai que chaque couple a, son schéma relationnel, et ça vaut le coup, quand même, de se reposer la question, justement, qu'est-ce qui se passe entre nous ? Est-ce qu'on arrive à se dire les choses ? Et en fait, la première chose à se dire, est-ce qu'on arrive à être en désaccord et à accepter d'être différent ? Parce que, en fait, c'est ça la dispute, hein. C'est se retrouver dans deux opinions, deux ressentis, deux visions de la situation très différentes, et on peut avoir du mal à accepter que ce soit différent pour l'autre. Et puis, il y a une très grande recherche d'être absolument écouté et compris. Alors, ce que je dis souvent, c'est que être écouté, ça, c'est très important. pour éviter la dispute, c'est déjà comment j'écoute l'autre et comment je me sens écoutée. Ensuite, est-ce que j'arrive à dire les choses ? Alors, comme vous disiez, on n'est pas obligé de tout dire. Quelquefois, il faut apprendre aussi un peu à se taire.
Et à temporiser.
Donc, c'est un peu la préparation. Comment je prépare ce que je vais dire ? Si je suis sur une impulsivité, ça va souvent sortir avec de la colère et donc ça va mal se dire et donc mal être entendu. Par contre, je peux préparer en me disant, bon, qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de communiquer à l'autre ? Et on peut même se l'écrire sur un morceau de papier pour avoir les mots ajustés au moment de le dire. Et ensuite, il y a tous les outils de la communication non-violente qui vont aider. Mais ça veut dire qu'il faut se former un petit peu et puis s'entraîner, parce que c'est pas naturel. Et après, c'est prendre le temps de se dire les choses. Parce que souvent, on se dispute parce qu'on n'a pas pris le temps de se dire. Et déjà,
vous dire que ça naît souvent d'incompréhension ?
Oui, d'incompréhension et déjà de se dire à soi-même. Finalement, quel temps chacun nous prenons pour nous-mêmes, pour faire le point sur nous-mêmes. Voilà, comment je me sens en ce moment ? Qu'est-ce qui me va ? Qu'est-ce qui me va pas ? Qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui me plaît pas ? Qu'est-ce que je souhaiterais ? Quels sont mes besoins ? Est-ce que j'y réponds ? Est-ce que j'y réponds pas ? De manière à ne pas non plus tout attendre et tout exiger de l'autre. Parce que c'est un peu le côté malsain de cette situation où on est en permanence ensemble, c'est qu'on finit par tout attendre de l'autre. Je ne suis pas bien, c'est à l'autre de me rendre bien. J'ai tel besoin, c'est à lui d'y répondre.
Quand justement, on attend tant de la vie de couple et la vie de famille.
Exactement, tout à fait. Et ben non, l'autre ne peut pas tout combler et il y a peut-être des choses qu'on peut résoudre soi-même, donc c'est aussi d'arriver à faire la part des choses. Et ensuite, cette notion de reproche, en fait on fait un reproche quand on n'est pas satisfait de quelque chose, donc on revient d'abord à soi, de quoi je suis pas satisfait, et ensuite qu'est-ce qui est de la part de mon conjoint. Et c'est là où c'est important en effet de pas l'enfermer dedans. En couple, on est très doué pour se mettre des étiquettes et se dire, de toute façon toi tu penses ça, tu vas répondre ça, ça ne laisse pas la possibilité ni d'évoluer, mais ni non plus de vivre du pardon. Parce que de toute façon, on a tellement préjugé d'eux qu'on ne va pas, et même quelquefois, on ne va même pas s'exprimer en disant ça ne sert à rien, de toute façon, c'est comme ça. Voilà.
Ça, c'est pour les couples. Ça nous fera déjà quelques conseils, le temps de les appliquer. On aura de quoi faire jusqu'à la prochaine émission. Je rappelle le titre, c'est le dernier livre que vous avez écrit, co-écrit donc avec Michel Martin-Prével, Grandir en couple, paru aux éditions des Béatitudes. On va vous retrouver pour cette émission Vie de famille sur les crises dans la famille. Et dans la deuxième partie, on parlera donc de la relation parent-enfant, de la difficulté parfois d'être parent.
là.
Vite coupe, vite famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce jeudi avec comme invité Marie-Aude Binet, conseillère conjugale et familiale et sexologue qui nous accompagne pour cette émission ce mois-ci donc sur le thème les crises dans la famille. Quid des relations parents-enfants, d'être, comment être un bon parent, c'est la question qu'on va se poser tout de suite. Je vous propose de commencer pour essayer de se détendre un peu avec tout ça par un autre extrait sonore, en l'occurrence c'est un extrait d'un sketch de Florence Foresti.
Non, ce que je voulais vous montrer, évidemment, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais à un enfant. Ça sert à rien. Parce qu'évidemment, un enfant, il est plus fort que toi, il va te faire renoncer à tes principes. Et moi, je ne savais pas. Alors moi, les principes, j'en avais plein avant que ma fille arrive. Je disais, ben déjà, ma fille, elle mangera bio, ça me paraît essentiel. Ouais, je parlais comme une connasse. Bah, parce que j'ai pas du tout envie qu'elle se gaffe de gluten, de graisse hydrogénée, d'OGM, no way, quoi. Ouais. La télé, hors de quest. No. Parce que je vais pas me servir de la télé comme d'une baby-sit de substitution. Je veux dire, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Tu vois, télé, bébé, hello, choose life. Les jouets? Ouais, bien sûr. Non, ma fille, elle n'aura que des jouets en bois. Filière allemande, ouais, 100% naturel. Oh, si, bah, c'est du bois d'arbre. Et oui, ça, c'était moi avant. Seulement, comment dire... Le jouet en bois... Quand tu te l'es pris trois fois dans la gueule.
Alors, on comprend pourquoi elle a du succès, Florence Foresti. Marie-Aude Binet, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oh, mais écoutez, c'est assez réaliste.
Vous pourriez faire ça pour vos couples, quand vous les accueillez, commencer par regarder un sketch ensemble.
C'est ça. Ça fait... Bon, quelquefois, la vie de couple est un sketch à lui-même, hein, ou la vie de famille. Je crois qu'on peut tous rire de certaines situations que l'on vit chez nous. Alors, c'est vrai qu'il y a l'idéal et puis il y a la réalité. Il y a l'idée qu'on se fait du couple ou de la famille, de la relation qu'on va avoir avec nos enfants. Et puis après, il y a ce quotidien qui nous rattrape vite, puisque nous ne sommes pas parfaits, nos enfants non plus, donc nos relations ne sont pas parfaites et c'est vrai que ça demande une adaptation en permanence qui suit l'évolution de chaque enfant au travers de ses différents âges jusqu'à la vie adulte.
Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'idéalisation.
Il est important, quand Florence Foresti, qu'elle avait dit qu'elle avait des principes, voilà. Alors, en fait, c'est important d'avoir quand même des valeurs, des principes, et c'est aussi bon d'en avoir bien discuté entre adultes avant. Beaucoup de parents aujourd'hui se retrouvent en difficulté parce qu'en fait, ils n'ont pas mis en commun leurs valeurs et ils n'ont pas mis non plus en commun la manière dont chacun a été éduqué et comment ils vont faire un compromis de tout ça. Parce que souvent, on se confronte. Dans ta famille, c'était comme ça. Dans la mienne, c'était comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait ensemble ? L'objectif, ce n'est pas de reproduire à 100% un modèle familial, mais plutôt de mettre en commun. Et c'est vrai que ça, c'est un sacré défi aujourd'hui pour les parents.
J'ai trouvé un article du journal La Croix. Qu'est-ce qu'un bon parent ? Ça m'a étonné parce qu'il faisait que deux pages. Alors qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet ? En tout cas, ce qu'on pouvait lire dans cet article, c'est une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'il fut un temps où être couple, être parent, c'était d'abord et surtout, je cite, nourrir son enfant, le vêtir, lui apporter une certaine protection et faire en sorte qu'il fasse des études et qu'il s'en sorte dans la vie. On entendait derrière ça, en fait, l'aider à être responsable de, à être autonome, donc responsable de son bonheur. Quand aujourd'hui, être parent, c'est autre chose, c'est à la fois beaucoup plus riche, mais c'est aussi parfois vouloir que ses enfants soient 100% heureux, donc porter une grande responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas là un peu ces deux choses un peu caricaturales, mais quelques excès dans les deux.
Comme je disais tout à l'heure, la famille devient le lieu d'épanouissement et de réalisation personnelle. Donc, on a légitimement, les parents ont envie, à travers l'amour qu'ils donnent à leur enfant, que leur enfant soit heureux. Et l'enfant demande à ses parents d'être heureux là où il est. Avec quelquefois les excès qu'il peut y avoir. Mais la difficulté, c'est qu'en effet, autrefois, il y avait une recherche d'autonomisation de l'enfant pour qu'il sache se débrouiller dans la vie. On se plaint beaucoup des nombreux tanguis qui restent chez eux, mais justement, à force de vouloir créer un cocon affectif qui protège l'enfant, on ne lui permet pas de s'autonomiser suffisamment. Et on sait aujourd'hui qu'il y a quelques crises conjugales qui sont dues à ça, c'est-à-dire que la dépendance affective qui s'est créée dans ces moments-là ne permet pas de devenir totalement adulte pour être dans une relation à l'autre à bonne distance. Donc ça, c'est un des premiers points. Donc c'est l'effet un petit peu...
L'effet boomerang.
L'effet boomerang, voilà. Après, il est bon qu'un enfant soit dans un contexte où il se sent aimé, puisqu'on sait à quel point l'attachement, je ne vais pas revenir dessus, mais l'attachement est un des domaines, un des paramètres qui permet de se construire le plus sainement possible. Par ailleurs, ça crée une exigence. Les parents se mettent dans une exigence extrêmement forte, avec l'effet un peu pervers du parent qui se dit « si je n'aime pas assez mon enfant, il ne m'aimera pas. S'il ne m'aime pas, ça veut dire que je ne suis pas un bon parent. » Et du coup, c'est le parent qui se réinfantilise un petit peu, en fait. Il n'arrive pas à rester à sa place d'adulte. Il n'y a pas...
C'est-à-dire un bon parent, c'est quelqu'un aussi qui accepte de ne pas être aimé ?
Exactement. C'est un parent qui accepte qu'il va insatisfaire son enfant, qui accepte qu'il va faire des erreurs, qui accepte qu'il n'est... Je disais comme tout à l'heure qu'il n'était pas parfait. Et on ne peut pas tout savoir pour son enfant. D'autant plus qu'on n'est pas les seuls référents dans la vie de nos enfants. Il y a les profs, il y a les moniteurs de sport, il y a les grands-parents, les cousins, les oncles et tantes. Enfin, l'enfant, il va être confronté à d'autres personnes. Mais on est là comme des piliers, des référents pour aider l'enfant à se construire, à mieux se connaître et à découvrir en lui tout ce qui lui permet justement de grandir et d'appréhender sa future vie adulte. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un cadre qui soit posé. Si on fait tout que par amour, on en vient à l'enfant roi, à qui on permet tout pour ne pas le frustrer et lui permettre de vivre tout ce qu'il a envie de vivre.
Donc si je résume, à la fois donc un socle affectif puissant, éduqué à l'autonomie, certes, enfin ne pas se rêver parent parfait et accepter de ne pas être aimé, c'est ça ?
Accepter en tout cas, je dis, de frustrer son enfant. Voilà, et accepter que on va lui dire non, ça va pas lui plaire, mais c'est aussi ce qu'on dit, certains parents le disent, mais c'est parce que je t'aime que là je te dis non. C'est toujours compliqué quand on est enfant de l'entendre, hein, et peut-être que certains auditeurs se souviennent
C'est-à-dire parfois, vous le verbalisez comme ça. Enfin, il faut le verbaliser comme ça. On peut le verbaliser comme ça.
Oui, on peut le verbaliser comme ça. Après, c'est aussi une difficulté, c'est comment en même temps. Faire passer à son enfant ce qui nous semble important, sans avoir en permanence à se justifier. Dès qu'un parent se justifie, il se décrédibilise, en fait. Donc, le parent, il est important qu'il montre à son enfant ou à son adolescent « j'y crois à ce que je te dis, et parce que j'y crois, c'est ce que je souhaite pour toi. »
Sans forcément l'expliquer.
Il y a des moments, on peut expliquer, ça n'est pas la même chose que justifier. Voilà, on peut donner un argument, en quoi cela semble bon, et puis à l'adolescent c'est important, parce que l'adolescent va chercher, et en même temps, il y a un moment donné, il y a un coup de butoir, quoi. C'est non, ou c'est comme ça, ou c'est oui, et voilà pourquoi je te dis oui. Enfin voilà, il n'y a pas que des non non plus à dire, hein. C'est important que des vrais oui soient posés, parce qu'il y a une confiance à donner à l'enfant, et ça lui permet lui aussi de grandir en confiance en lui. Donc c'est vrai que la tâche des parents, on n'est pas que dans la parenté, on n'est pas que les parents d'eux, on est dans une parentalité, c'est-à-dire qu'on est en relation et en communication avec nos enfants. Et c'est vrai que c'est une tâche difficile, c'est évident, parce que ça, nos arrière-grands-parents n'étaient pas dans ce lien-là. Donc c'est quelque chose que l'on découvre.
C'était à la fois plus simple et... parfois plus compliqué parce que les liens aussi affectifs étaient moins puissants derrière.
Exactement.
J'ai trouvé aussi une phrase dans ce même article. Si les parents étaient parfaits, c'est vrai qu'on le retourne jamais comme ça, mais ça serait terrible. Ils inhiberaient leurs enfants, dit en l'occurrence le journaliste. Autre chose que j'ai trouvé dans cet article, grandir et être parent, c'est souvent vouloir, au dire du journaliste, c'est vouloir faire mieux que ses propres parents. Ça fait partie aussi du package et c'est bon que ça soit le cas.
En tout cas, il y a
mieux ou autrement, bref,
oui,
en tout cas,
c'est souvent autrement.
Soigner ses blessures à travers.
Ça, on le joue un peu quand on est parent. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire « je ne serai pas comme maman, je ne serai pas comme papa », et puis tout d'un coup, on se rend compte « ah ben zut, je fais comme eux ». Et en même temps, il y a d'autres choses. Je dirais, c'est ça aussi, grandir, devenir adulte, c'est discerner ce que l'on est prêt à garder de ce que l'on a reçu, et ce que l'on ne souhaite pas garder, et ce que l'on souhaite mettre en place de soi-même. C'est ça, être adulte. Et c'est vrai que les enfants nous poussent dans nos retranchements là-dessus. Ça m'agaçait quand mes parents m'empêchaient de sortir à l'âge de 15 ans. Face à mon ado de 15 ans, finalement, qu'est-ce que je fais ? Je fais comme papa et maman ou je fais autrement ? Quels sont les arguments que j'ai, les motivations ? Vous parliez tout à l'heure d'intention. Quelle est l'intention pour mon enfant, en fait ? Et c'est ça qui va permettre à l'enfant aussi de mieux comprendre l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est pas interdire seulement, même s'il peut y en avoir des interdictions. C'est surtout baliser le chemin de l'enfant. Voilà. Si je te dis que c'est pas bon pour toi de sortir en boîte de nuit jusqu'à 3 heures du matin à l'âge de 15 ans, voilà mon intention, voilà vers quoi je te conduis.
Ça, j'avais compris, mais donc c'est assez naturel que de vouloir faire mieux.
Oui, mais enfin, c'est pas faire mieux. Enfin, je suis pas sûre que ce soit faire mieux. C'est souvent faire autrement.
Faire autrement. Tracer sa route et son chemin. Et puis donc, comme vous dites, voilà, l'adulte, c'est aussi celui qui a fait un peu le tri et qui, justement, est peut-être pas dans la confrontation. Je trouvais un autre article aussi qui parlait de l'arrivée des enfants. Voilà, être parent, un défi pour le couple. On en revient un tout petit peu à la première partie, mais ça n'est pas sans lien. L'arrivée de l'enfant, faut s'y faire. C'est toujours... du premier, du deuxième, du troisième, c'est toujours un grand bouleversement, Marie-Aude ?
D'une famille à l'autre, c'est pas forcément le premier, en effet. Quelquefois, ça peut être le deuxième, le troisième, voire le dernier, qui va chambouler la vie conjugale ou familiale. Mais en tout cas, l'arrivée d'un tiers dans la relation conjugale, oui, va bouger un peu les places. Il faut se réajuster, se réadapter. C'est pas la même chose d'être amoureux tranquillement l'un avec l'autre tous les jours et de tout d'un coup devenir papa, maman et de réajuster la relation. Une chose est certaine, et ça j'y tiens vraiment beaucoup, parce que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, c'est la place du couple et la place des enfants. Il y a quelquefois une trop grande confusion, même dans l'espace de la maison, entre le couple et les enfants. Il est naturel que le couple, ou en tout cas que les enfants, ne soient pas en permanence ensemble, de manière à ce qu'on préserve la qualité relationnelle des uns et des autres. Il faut un temps pour le couple et il faut un temps pour la relation parent-enfant, et quelquefois pour la relation entre le père et ses enfants, la mère et ses enfants. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que si on met trop l'enfant au milieu, là, on met en péril, en fait, le couple. Et si on met en péril le couple, on met en péril la famille. C'est le couple qui est à la base de la famille et pas l'enfant. Et ça, ça a été un peu une confusion, notamment avec l'augmentation des enfants qui naissent hors mariage, parce que l'engagement conjugal n'est pas forcément pris en amont. Et ça reste pourtant prioritaire que le couple tienne bien le coup, donc s'occupe de lui, pour que la famille soit pérenne.
Dans les parents, relations parents-enfants, il y a d'autres grandes choses qui vous semblent importantes de mentionner. J'avais noté aussi, vous en avez parlé un petit peu, hein, faire l'héritage, essayer de conscientiser l'héritage éducatif que l'on a. Ça fait un peu psy justement que de parler de ça, mais dans le fond, on peut sinon fonctionner un peu trop par automatisme, c'est ça ?
Alors,
en tout cas, quand
oui.
Un enfant débarque. Bah souvent, c'est les vraies questions qui viennent.
De toute façon, c'est obligatoire parce qu'on se confronte déjà en couple, en tant que père et en tant que mère, on se confronte l'un à l'autre. Et quelquefois, dans les désaccords que l'on peut avoir, c'est utile de savoir qu'est-ce qui nous motive à vouloir éduquer l'enfant de telle ou telle manière ou à lui transmettre telle valeur ou à donner telle orientation à l'éducation. Donc, de toute façon, on est confronté. Et puis encore une fois, à l'adolescence, l'enfant nous remet encore plus en question puisque là, il veut qu'on argumente, il veut qu'on assume notre positionnement, et c'est vrai que ça peut donner lieu à des remises en question profondes, avec quelquefois des blessures qui remontent. Mais encore une fois, moi j'invite à ne pas dramatiser, ce sont des passages de vie, nos enfants nous font grandir, ça c'est une évidence, et c'est bon pour nous aussi, c'est bon pour les enfants et c'est bon pour nous.
On peut citer quelques livres, en tout cas pour cette partie donc sur les relations parents-enfants. Vous vouliez proposer « Parents efficaces », c'est de Thomas Gordon. Vous pouvez dire un mot peut-être sur ce livre ?
Oui, Thomas Gordon est un des disciples de Marshall Rosenberg, qui est l'initiateur de la communication non-violente. Et donc, il a écrit ce livre pour aider les parents, justement, à être à instaurer, grâce aux outils de la communication non-violente, une relation plus apaisée avec leurs enfants, quel que soit leur âge, et même à apprendre aux enfants cette communication-là.
Donc « Parents efficaces », Thomas Gordon, et puis il y en avait un autre que j'avais vu, c'est « Parents et heureux, comment concilier vie de famille et vie de couple », c'est paru aux éditions Larousse. On va faire une deuxième pause, et puis on va continuer à parler de la famille, en l'occurrence des familles recomposées.
Radio Présence à Pamiers 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite couple, vite famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme sous-thème la crise dans la famille, avec Marie-Aude Binet, qui est conseillère conjugale et familiale et sexologue, et habituée de cette antenne. On s'est dit qu'on allait parler donc des familles recomposées, peut-être des crises plus particulières, plus particulières que traversent les familles recomposées. Avant qu'on prenne éventuellement l'un ou l'autre exemple, parce que tout le monde n'a pas une famille recomposée, donc a peut-être du mal à comprendre ce que c'est comme réalité ou ce que vivent ces personnes. Les familles recomposées, on se disait ça avant l'émission. On imagine en fait qu'aujourd'hui il y a presque, enfin, une majorité de familles recomposées. Or, c'est plus compliqué que cela. En France, il y aurait 3,4 millions d'enfants mineurs ne vivant pas avec leurs deux parents. Mais pour autant, pas autant de familles recomposées que ça, Marie-Aude Binet.
Non, en 2015, on comptait à peu près 960 000 enfants qui étaient en famille recomposée, c'est-à-dire avec un de leurs parents et un beau-parent. Donc ça reste une minorité des familles.
Ça veut dire que beaucoup de couples divorcent, mais pour autant, ils ne recomposent pas une autre famille derrière.
Les familles recomposées ne sont pas dues qu'au divorce, il y a aussi des veuvages. Alors c'est vrai qu'autrefois, les familles recomposées, elles ont toujours existé, puisque dès qu'il y avait un veuvage, il y avait régulièrement un remariage. Donc il y avait des familles recomposées. Mais aujourd'hui, il y a moins de familles recomposées dues au veuvage et beaucoup plus dues au divorce. Il faut savoir quand même que le divorce est dans le code civil depuis 1884 avec la loi Naquet, et n'a plus été retiré du code civil. Donc ça fait quand même très longtemps que les divorces existent, et le consentement mutuel depuis 1975, renforcé en 2016, permet non pas plus de divorces, mais permet que les divorces se passent de manière plus aisée au niveau juridique. J'insiste sur la différence, parce que jamais le divorce n'est vécu de manière facile. Même s'il est facilité juridiquement, ça ne veut pas dire qu'il est encouragé socialement et psychologiquement. Je vois trop dans mon cabinet...
Ça ne veut pas dire qu'il est toujours bien vécu.
Exactement.
Après, on peut considérer qu'il est d'une certaine manière encouragé quand il est facilité.
En tout cas, alors je ferai la différence entre les deux. D'accord ? Moi, je n'entends pas les couples qui désirent se divorcer dire « parce que je sais que le divorce est facile, je vais divorcer ». C'est faux parce que la plupart du temps, ils ne sont absolument pas au courant des procédures juridiques. Donc, ils ne savent pas que ça peut être facilité. C'est simplement que, en tout cas, c'est permis. C'est possible de divorcer, ça, c'est une évidence. Donc déjà, avant de faire une famille recomposée, il faut déjà prendre conscience qu'il y a eu un instant de crise dans un précédent couple qui a conduit au divorce et donc qui a conduit à une souffrance, à une douleur. Et il faut déjà prendre le temps de guérir de cette souffrance, de cette douleur, et pour les parents et pour les enfants.
Donc c'est ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas tant de familles recomposées que ça, en fait.
En tout cas, c'est pas si facile, après, de recommencer un nouveau couple et de refaire une nouvelle famille dans ces conditions-là.
Prenons un exemple. Alors, vous me direz, c'est un peu difficile de prendre un exemple parce que des familles recomposées, il y en a mille et une autres. C'était toujours... alors, je me suis servi à nouveau du journal La Croix. Je le cite beaucoup ce matin. Si ça en énerve certains, je m'en excuse. Voilà, un couple donc malheureux en ménage, enfin, en couple chacun. Ils se rencontrent. Il se lance. Le titre de l'article, c'est « Il faut du temps pour apprendre à se connaître ». On a une belle photo, bref, que les auditeurs ne voient pas. Toujours est-il qu'il laisse entendre que, si je dois résumer, c'est un long chemin, alors qu'on a envie, en général, d'être à nouveau heureux tout de suite.
Oui. Alors, en fait, il y a une qualité que développent les couples qui se recomposent avec une nouvelle famille, c'est qu'ils ont déjà conscience de ce qu'est la vie conjugale, puisqu'ils en ont déjà eu une. Ils ont déjà eu aussi une vie de famille. Donc, ils savent que c'est difficile. Et souvent, ils veulent prendre le temps de bien construire cette nouvelle vie. Et ils font très facilement, d'ailleurs, les démarches d'aller voir des conseillers conjugaux dès qu'il y a la moindre dispute. Voilà, ils ne laissent pas s'enquister un conflit. Et ça, ça leur donne beaucoup de chances de réussir, entre guillemets, cette nouvelle vie. Et en effet, ils prennent souvent le temps. Ils ne vont pas forcément habiter ensemble rapidement, ou en tout cas, ils prennent le temps de bien se connaître, de mettre en commun leur vision du couple et de la famille, et de faire famille ensuite. Parce que vous disiez, les familles recomposées, il y en a plusieurs sortes. Il y a la famille recomposée où les deux ont déjà des enfants, famille recomposée où il n'y en a qu'un qui a des enfants, mais après, et puis il y a les familles recomposées où il va y avoir un nouvel enfant entre les conjoints. Donc ça donne plusieurs formules, et puis il y a ceux qui ont déjà eu plusieurs vies conjugales, donc ça fait des familles recomposées avec beaucoup de quasi-frères et sœurs qui peuvent se retrouver. Donc c'est vrai que c'est assez complexe, et ça demande quand même aux adultes d'être assez clairs sur ce qu'ils ont envie de vivre et sur leur propre histoire pour mettre en commun ces histoires-là.
Parmi toutes les choses que j'ai glanées, il y en a une qui m'a frappé peut-être particulièrement, c'est que quand une famille recomposée apprend donc à fonctionner ensemble, et entre autres donc que des pièces rapportées vivent sous le même toit que des enfants qui ne sont pas les leurs, les questions que se posent les adultes sont aussi celles des enfants, peut-être contrairement aux apparences, est-ce que ma belle-mère va m'apprécier, est-ce que je peux me confier à une autre personne qu'à maman ou qu'à mon papa. Bref, dans le fond, tout le monde est un peu dans ses petits souliers.
Alors, pour les enfants, c'est assez complexe parce que l'enfant garde une loyauté envers ses deux parents. Il aime ses deux parents et il ne veut surtout pas les trahir. Donc, quel que soit le mode de garde qui a été décidé lors de la séparation, l'enfant a besoin de sentir qu'aucun parent ne va être remplacé par le beau-parent qui arrive. D'autant plus quand il n'y en a qu'un des deux parents qui refait une vie de couple. Vous voyez, ça aussi, ça crée quelquefois un déséquilibre. Donc, l'enfant a besoin d'être rassuré là-dessus. Et ça, c'est important d'avoir un dialogue avec son enfant en disant...
Rassuré sur ?
Sur, ben voilà, je suis à nouveau...
Est-ce que vous ne pouvez pas lui dire, oui, tu peux être loyal à chacun, c'est...
Ben, on peut lui dire, écoute, tu as un papa, tu as une maman, tu les aimes et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Nous aussi, on t'aime. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec un nouveau monsieur, un nouvel homme ou une nouvelle dame, une nouvelle femme. Et ça ne remplacera pas papa et maman. Voilà, chacun sa place. Ça, l'enfant, on peut le verbaliser quel que soit son âge. Après,
Leur dire aussi, t'es pas obligé de l'aimer ou...
Alors, on peut dire en tout cas que le plus important, c'est de respecter. Voilà, le respect fait partie de toute façon de toute relation humaine. Donc on dit bonjour, on dit au revoir, on a une vie, quand on vit sous le même toit, on se respecte mutuellement parce qu'on a une vie commune. Donc le beau-parent, il devient un référent adulte parce qu'il vit sous le même toit et il a une autorité en tant que tel. C'est-à-dire que ranger sa chambre, ben le beau-parent peut très bien le demander au même titre que le parent parce qu'on vit ensemble, c'est la même maison. Par contre, la sanction... c'est plutôt le parent qui va la donner, parce que c'est lui qui a l'autorité parentale requise pour ça. Les grandes décisions vont se passer toujours entre parents. Le beau-parent peut donner son avis en off, bien sûr, et il peut devenir un confident pour l'enfant. Et ça ne veut pas dire que le parent va être trahi, mais il y a des peurs parentales là derrière. Il peut y avoir une maman qui va dire « je vais perdre l'amour de mon enfant parce qu'il y a une nouvelle femme qui rentre dans sa vie, la nouvelle compagne de son père ». Donc ça, c'est les peurs adultes hein, qui interviennent.
Qui sont parfois légitimes, parce qu'au moment de la crise d'adolescence, on peut imaginer qu'aussi c'est plus facile de nouer une relation avec un tiers.
Oui, mais n'empêche que ce que je dis toujours, on ne peut pas perdre ses enfants et on ne peut pas... bien sûr qu'il y a des peurs qui peuvent arriver là-dessus, mais on ne perd jamais son parent ni son enfant. Voilà. Par contre, il peut y avoir une remodélisation du lien qui se fait parce qu'il y a l'arrivée des tiers. Et ça, c'est vrai que ça demande à chacun de se réadapter et rien ne vaut de maintenir le dialogue, même dans des situations de tension très compliquées.
J'ai noté aussi l'importance pour les enfants d'être sûrs de ne pas perdre leur place dans le regard de leurs parents.
Oui, et notamment quand il y a des nouveaux enfants qui arrivent. C'est-à-dire, ah zut, papa ou maman, avec le nouveau conjoint, va avoir un nouvel enfant, et moi là-dedans, qu'est-ce que je deviens ? Alors ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend s'il y a déjà une fratrie qui existe ou pas. Mais en effet, et puis après, il y a aussi, quand il y a des enfants de chaque côté qui vont vivre ensemble, c'est la confrontation de deux éducations différentes qui ont été vécues auparavant. Donc, toi, tu laisses tes enfants regarder la télé tous les soirs en rentrant de l'école, moi, je suis contre. Mais ma papa, pourquoi est-ce que lui, il a le droit et pas moi. Donc, ça demande quand même aux adultes de se mettre vraiment d'accord sur les nouvelles règles de vie commune, en sachant qu'en retournant chez l'autre parent, l'enfant va peut-être vivre autre chose. C'est ça qui complexifie beaucoup le contexte hein, pour l'enfant. C'est qu'il n'a pas forcément les mêmes règles de vie quand il est chez un parent et chez l'autre, et que l'arrivée d'un tiers va quelquefois rééquilibrer ou réadapter autrement ses règles de vie.
L'autre chose aussi dans l'exemple du couple que donc de l'article du journal La Croix, c'est la question de la culpabilité. Impossible de ne pas culpabiliser pour les parents et il faut apprendre en fait à traverser ça.
Oui, quelle que soit la manière dont le divorce s'est passé, que l'on soit à l'origine du divorce ou qu'on ait entre guillemets subi le divorce, dans les deux cas, il y a souvent une culpabilité d'avoir cassé la famille. Parce que le rêve intrinsèque de tout être humain, c'est de vivre dans une famille qui reste stable et dans laquelle on peut justement vivre des relations qui sont bonnes pour chacun. Donc c'est vrai que je le vois dans les personnes qui réfléchissent à une séparation, ce qui les retarde leur désir de séparation, c'est le fait de briser la famille et de rendre malheureux leurs enfants. Ça reste une souffrance très importante, qu'on soit père ou mère. Et c'est vrai que ça laisse une culpabilité, en tout cas un goût très amer, qui met du temps en fait, à être guéri. Mais ce qui va aider à guérir, c'est d'en parler à l'enfant, en fait, hein, de dire, voilà, je suis triste pour toi, c'est pas ce que je voulais pour toi. Et l'enfant peut être aussi... déculpabiliser lui-même par cette parole de l'adulte, parce qu'il y a des enfants qui se culpabilisent du divorce de leurs parents. Et il faut remettre, pareil toujours, l'enfant à sa place en disant « ce n'est pas, tu n'y es pour rien, c'est une histoire d'adulte voilà. ».
Et on n'explique pas à ses enfants pourquoi on se sépare.
Alors, ça dépend les raisons pour lesquelles on se sépare. Il n'est pas bon de tout dire, en tout cas pas de tout dire tout de suite. Il sera peut-être bon d'en donner une explication plus tard quand l'enfant sera assez grand pour l'entendre, notamment quand il y a une infidélité. Lorsque l'on met sous les yeux de l'enfant toute cette intimité des adultes, ça fait mal et ça peut faire des dégâts. Par contre...
Des dégâts, voire des ravages, oui.
Oui, donc moi j'appelle toujours les parents à faire preuve d'intelligence et d'intuition pour se dire, voilà, ensemble, qu'est-ce qu'on va dire à l'enfant ? Et ensemble, parce que quand il y a un des parents qui dit des choses alors que l'autre veut préserver l'enfant, ça aussi, ça fait des dégâts. Donc, il faut se mettre déjà d'accord là-dessus. Et pareil, le beau-parent doit aussi être dans cette réserve-là pour respecter ce qui s'est passé dans la vie d'avant.
Pour finir, quelques livres qu'on a cités. Donc, Grandir en couple, ça c'est votre livre avec Michel Martin-Prével, paru aux éditions des Béatitudes. Parents efficaces, Thomas Gordon. Parents et heureux, comment concilier vie de famille et vie de couple, c'est paru aux éditions Larousse. Merci Marie-Aude Binet.
Merci Emmanuel, bonne journée à tous.
À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.